Bonjour tout le monde. Je suis reconnaissant de pouvoir apporter la prédication du jour. C'est pas toujours évident. Et je voudrais vous saluer tous très chaleureusement. Ce matin, je propose que nous partions dans l'Ancien Testament. Je suis les traces de Jean-Philippe. Je ne sais pas s'il est là, mais il part souvent dans l'Ancien Testament. Et je vois aussi, je constate que Jean-Marc aussi, il y prend goût, parce qu'il y a 2 semaines, il nous a fait vivre cette histoire étonnante du jeune Samuel qui a entendu la voix de l'Éternel en plein milieu de la nuit. Et voilà, le dimanche passé, il a de nouveau pris la parole, il nous a parlé de Abraham et ce mot « va ». Donc, notre texte de ce matin se trouve en 2 Rois 6. Ce récit m'a beaucoup parlé et vraiment j'ai à cœur de partager avec vous les belles choses que j'ai vues dans ce texte. C'est merveilleux. Et je voudrais que ce texte nous accompagne tout au long de cette semaine. Que ce texte nous donne de nouvelles forces pour affronter tous les défis qui seront sur notre route. Parce qu'il aura de nouveau des défis sur notre route cette semaine. Prions. Tu es le Dieu vivant et vrai. Merci pour ce privilège de nous tenir devant toi. Merci parce que tu es un Dieu qui parle, qui agit dans la vie des hommes et des femmes. Et nous sommes ici devant toi, nous avons soif d'entendre ta voix. Et merci de parler dans nos cœurs, de nous rendre sensibles à ta présence et de bénir ces moments. Au nom de Jésus, amen. Tout bon message, semble-t-il, a 3 points. Mais moi, aujourd'hui, j'en ai au moins 4. Mais je crois que vous avez déjà vu dans le coin de neuf... Quelles seront nos pistes de réflexion? Parce que ce passage me lance de grands défis. Ça me remet en question ma vie personnelle. Et comme vous le savez, ce récit se déroule au temps des rois d'Israël. Et je lis le traité de paix conclu sous le règne du roi Achab entre Israël et Syrie. N'est plus en vigueur, plus respecté. Le roi syrien déclare la guerre et le peuple de Dieu est de nouveau menacé. Le contexte dans lequel Élisée vit n'est guère encourageant. La vie spirituelle de la nation plonge à une vitesse hallucinante. Dieu parle à maintes reprises pour empêcher cette descente qui va entraîner de terribles conséquences. Israël va tout droit vers l'exil, vers de grandes souffrances. Nous aussi, parfois, nous faisons à notre tête. Nous n'écoutons pas et sans surprise, nous allons tout droit dans le mur. Notre conscience ne nous laisse pas tranquille, mais nous faisons tout pour étouffer cette voix qui est là au fond de nos cœurs, qui nous dit « stop !» Mais on y va quand même. Et ces merveilleuses histoires d'Élie et d'Élisée ne cessent pas de me parler. Ce sont des hommes de Dieu qui ont fortement marqué leur époque. Dieu parle de manière forte. Il agit dans la vie de la nation. Mais malgré tout, son peuple semble incapable de faire marche arrière, de faire demi-tour et de revenir à Dieu. Aujourd'hui, si Dieu nous parle, ne restons pas indifférents. Il veut notre bien. Ne restons pas sur un chemin qui va nous amener loin de lui, lui qui est la source de la vie et du bonheur. Je propose aujourd'hui que nous lisions quelques versets à la fois Et puis nous allons faire une pause pour essayer de saisir ce qui ressort de ces versets. Donc nous commençons avec verset 8 du chapitre 6 de Rois. Je crois que je l'ai pris du français courant. C'est l'époque où le roi de Syrie est en guerre contre Israël. Il consulte ses officiers, puis il décide d'installer son armée à un certain endroit. Mais Élisée fait dire au roi d'Israël, « Attention, évite de passer par tel endroit. C'est là que les Syriens ont installé le camp. » Le roi d'Israël envoie donc ses soldats surveiller l'endroit que l'homme de Dieu a indiqué. Cela se passe plusieurs fois. Élisée prévient le roi d'Israël qui fait très attention. Élisée n'est pas un soldat au service du roi, mais à plusieurs reprises, il rend grandement service au roi. Il est capable d'indiquer où les Syriens ont établi leur campement. Il dit au roi, « Attention, il ne faut pas passer par tel chemin, car tu risques ta vie. » Les Syriens ont pris position. Et nous lisons que le roi d'Israël, il envoie des hommes en reconnaissance à l'endroit indiqué par Élisée. Et cet homme de Dieu est une grande bénédiction pour la nation. En lisant ce passage, une question me vient à l'esprit. De nos jours, à quoi sert l'Église dans notre société? Voire dans la vie de la nation? Dans certains pays, nous savons qu'il ne fait pas bon être chrétien. Les autorités font tout pour éliminer la présence chrétienne. Oui, les hommes ont toujours essayé d'éradiquer l'Église, mais elle est toujours debout. Et nous savons que c'est Dieu qui aura le mot final. L'Évangile dérange parce que il met en lumière les mauvaises actions. N'est-ce pas, Jésus a dit dans l'Évangile de Jean, « Voici comment la condamnation se manifeste. La lumière est venue dans le monde. » Mais les hommes préfèrent l'obscurité à la lumière. Parce qu'ils agissent mal. Quiconque fait le mal déteste la lumière et s'en écarte, car il a peur que ses mauvaises actions apparaissent en plein jour. Oui, l'Évangile dérange, mais pourtant nous pouvons affirmer que des chrétiens engagés dans leur foi ont énormément contribué au développement et au bien-être de la société. L'histoire démontre que bien souvent, ce sont des hommes et des femmes de foi qui ont occupé le devant de la scène pour lutter contre les maux de la société, pour apporter un secours aux démunis et des soins aux personnes malades. Mais voilà, c'est ça qui se passe quand l'Évangile prend racine dans nos cœurs. L'amour du Christ nous pousse à aimer notre prochain, à être le sel et la lumière de la terre. En creusant un peu l'histoire de l'Europe, nous nous rendons compte que nous devons beaucoup aux hommes et aux femmes de foi qui se sont donnés pour une société plus juste. Face à la souffrance, la détresse, le désespoir, ces croyants n'ont pas gardé le silence. Mais ils ont agi pour le bien de la société. Aujourd'hui encore, les chrétiens sont à pied d'œuvre dans bien des pays pour démontrer l'amour du Christ. Je vous donne un exemple très concret d'un pays où nous avons passé une vingtaine d'années. C'est le Burkina Faso. Et dans les années 70, Ken et Jocelyne se sont installés à Djibo, dans le nord du Burkina. C'est la partie du pays qui touche le Sahel. Avec peu de ressources, ils ont commencé à bâtir un centre médical pour répondre aux besoins énormes de la population. En tant que médecin, Ken a soigné des gens pendant 40 ans. Je crois qu'ici, c'est marqué 43 ans. Lui et sa femme, Jocelyn, sont partis de rien. Brique après brique, ils ont construit leur clinique. D'après les infos sur le site Ken, que vous avez vu sur l'écran, il était le seul chirurgien pour 2 millions de personnes. Incroyable. Nous avons entendu qu'en janvier 2015, voilà, des islamistes ont franchi le mur qui entourait leur maison et les ont enlevés en pleine nuit. Jocelyne a été relâchée après quelques semaines, mais jusqu'à aujourd'hui, nous avons peu de nouvelles de Ken. Il venait d'avoir l'âge de 80 ans. On se demande pourquoi il était toujours là, à 80 ans, en train de soigner les malades. Moi, je pense qu'il attendait que d'autres médecins viennent prendre sa place, parce que pour lui, c'était hors question d'abandonner cette population autour de lui. Je profite pour faire un peu de pub. Je vous invite à nous rejoindre le mercredi soir. Emmanuel nous parlera d'un projet en faveur des enfants des rues de Dakar. Elle vous présentera un autre couple qui se donne pour le bien-être des autres. Kazibo, qui est haïtien, et Rosimara, elle est brésilienne. Ils sont arrivés au Sénégal, je crois que c'était 1999. Et voilà, ils se sont mariés et ils ont ouvert leur maison à ces enfants qui traînaient dans la rue. Mais voilà, pour la suite, rendez-vous mercredi soir sans faute pour écouter Emmanuel. Revenons à notre texte. Qu'est-ce qui se passe ici dans ce passage de deux rois? Grâce aux révélations qu'il reçoit en tant que prophète, Élisée est capable de donner de précieuses informations au roi d'Israël. Grâce à Élisée, le roi a la vie sauve. Il ne tombe pas entre la main des ennemis. Je vous demande aujourd'hui, est-ce que nous avons à cœur les personnes qui dirigent notre pays? Vous me direz peut-être, moi, je n'ai pas voté pour le président actuel. Mais il est quand même devenu président. Et voilà, la Bible nous exhorte de prier pour les autorités. Je crois que nos prières peuvent faire une différence dans l'avenir de ce pays. Oui, nous ne sommes pas des Élysées, mais nous pouvons prier. Je ne savais pas que ça existait encore, parce que dans le temps, j'avais vu cela, c'est CPDH qui nous donne un calendrier mensuel pour nos autorités, pour prier. Il nous donne des pistes à suivre pour prier pour nos autorités. Est-ce que vous l'avez? Si vous ne l'avez pas, vous pouvez télécharger cela de leur site. Si on continue, je pense que vous connaissez aussi cet homme. Il y a certains qui disent oui, parce qu'il était à Colmar, lors du culte en commun, organisé par CNEF 68. Il a un ministère très important auprès des parlementaires. Nous pouvons aussi prier pour lui. Il est vraiment bien situé, là où il est. Revenons à nous, à notre église, 9 rue du Charpentier. Avant la fin de l'année, on aura un tout nouveau bâtiment. On se réjouit beaucoup. vous n'avez pas l'air très enthousiaste ce matin, mais moi, je me réjouis beaucoup et je dis merci à tous ceux et celles qui permettent la réalisation de ce projet. Oui, ce bâtiment, ce sera un beau bâtiment, plus fonctionnel, plus attrayant. Et on aura du plaisir à venir au culte, aux réunions. Mais je me dis que tout cet investissement, ce n'est pas seulement pour nous. Je ne crois pas. Il doit servir à faire avancer le royaume de Dieu dans cette ville de Mulhouse, ce projet. Est-ce que cette belle salle sera utile à l'avance de l'Évangile dans ce quartier où nous sommes? Je voudrais que ces quatre murs deviennent un véritable lieu de vie où les personnes du voisinage peuvent venir et découvrir qu'ils peuvent avoir une relation avec ce Dieu vivant. Oui, en tant qu'Église, nous avons quelque chose à apporter aux gens autour de nous. Ils ont souvent besoin d'un mot d'encouragement. Ils ont besoin de savoir que l'Église de Jésus-Christ existe, qu'elle n'est pas indifférente à la solitude, à la souffrance, à la peur qui est le lot de beaucoup autour de nous. Je dis merci au Seigneur pour l'armée du salut. Merci pour l'association Accès. Et encore, toutes les actions qui sont menées sur le terrain. Merci pour la fabrique. Je me réjouis beaucoup. C'est une porte de notre Église qui est ouverte, où les personnes viennent, sont accueillies, reçoivent de l'aide, partagent leurs problèmes. Oui, que notre Église voit des vies changer dans notre quartier. Mais je dois me rappeler que l'Église, c'est moi et c'est vous. Quelle est notre perspective des choses? Qu'allons-nous faire ensemble pour toucher ce quartier? L'Église, c'est moi, c'est vous. Quel est mon engagement? Quel est votre engagement? Osons poser cette question pendant cette semaine et trouvons la réponse pour les jours à venir. Lisons encore la suite de notre texte, verset 11 à verset 14. Le roi de Syrie est inquiet à cause de ce qui arrive. Il réunit ses officiers et leur dit, « Il y a parmi vous un traître qui est pour le roi d'Israël. Est-ce que vous ne voulez pas me dire son nom ?» L'un des officiers répond, « Notre roi, il n'y a pas de traître parmi nous. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, est capable de rapporter à son roi les paroles que tu dis dans ta chambre à coucher. » Alors, le roi de Syrie donne cet ordre, « Allez voir où il est, et je vais le faire arrêter. » Quand le roi de Syrie apprend qu'Élisée se trouve à Dothan, il envoie une troupe nombreuse de soldats avec des chars et des chevaux. Ils arrivent de nuit et entourent la ville. Quand je lis ces paroles, je dis « Wow !» Élisée révèle au roi d'Israël les paroles même que le roi de Syrie prononce dans sa chambre à coucher. Wow! Nous ne pouvons pas dire que le roi panique, bon, c'est le titre que j'avais donné, mais il est troublé. Il est convaincu qu'il y a un traître parmi ses officiers. Et voilà quelque chose d'intéressant, n'est-ce pas? Pour une raison ou une autre, ces officiers savent ce qui se passe. Étonnant. Ils disent au roi, non, il n'y a pas de traître dans nos rangs. Le vrai problème, c'est ce prophète Élisée. Il est capable de révéler au roi d'Israël les paroles mêmes que tu prononces en secret. C'est quand même un peu déroutant, n'est-ce pas? Je crois que je vous ai déjà dit que ma maman me disait quand j'étais tout petit que je n'étais pas sage. Tu sais, je peux lire tes pensées. Et ça me troublait. Je ne croyais pas trop, mais j'étais troublé. Et bien sûr, je sais maintenant que personne n'est capable de regarder dans mon cœur, de connaître mes pensées, d'entendre les paroles que je prononce en secret, sauf un seul, Dieu. Dieu, Dieu. Le psaume 139, tu sais si je m'assieds ou si je me lève. Longtemps d'avance, tu connais mes pensées. Tu remarques si je suis dehors ou chez moi. Tu es au courant de tout ce que je fais. La parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres. Que tu sais déjà tout ce que je vais dire. Paul nous dit dans Romains 2, un jour, tous les secrets vont être dévoilés. Paul nous dit, voilà ce qui paraîtra au jour où Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce qui est caché dans la vie des hommes, comme affirme la bonne nouvelle que j'annonce. Et je sais que ce jour-là, si Jésus n'est pas là pour plaider ma cause, c'est sûr, toutes mes paroles, si belles soient-elles, ne pourront m'épargner la condamnation que je mérite. Le roi de Syrie dit, alors, allons, allons-y, il n'y a qu'une seule solution. Attrapons cet homme, Élisée, et nous verrons ce que fera le roi d'Israël. Le roi envoyait une forte troupe de soldats avec, bon, il découvre, n'est-ce pas, qu'il est à Dothan. Et le roi envoie une forte troupe de soldats. Ils viennent avec leurs chevaux, leurs chars, et ils entourent la ville de Dothan. Je me dis vraiment si Élisée était là aujourd'hui pour nous aider, on pourrait lui envoyer des SMS, un message sur WhatsApp. J'ai besoin de tes conseils aujourd'hui. Quand on regarde la fin de la vie d'Élisée, c'est révélateur. Vous pouvez le trouver en 2 Rois 13. Élisée, il sait que ses jours sont comptés. Il va mourir bientôt, mais il est paisible. Et c'est le roi d'Israël qui vient le voir. Lui, par contre, le roi d'Israël, il est angoissé. Impensable que ce prophète ne soit plus là pour lui porter secours. Oui, là, c'est vraiment panique à bord. Joas, roi d'Israël, se rendit auprès d'Élisée, penché sur lui. Il se mit à pleurer et s'écria, « mon père, tu vaux tous les chars et tous les cavaliers d'Israël. » Je me dis aujourd'hui, quelles sont les ressources à notre disposition? Dieu n'a pas changé. Vous vous rappelez de la réaction des disciples quand Jésus leur annonce que le moment est venu pour lui de quitter ce monde? Quand Jésus dit qu'il va les quitter, les disciples, c'est la tristesse qui envahit leur cœur. C'est impensable que cette belle aventure avec Jésus prenne fin. Mais Jésus leur dit que c'est à leur avantage qu'ils partent. Parce que Jésus dit que s'ils ne partent pas, celui qui doit venir, il ne peut pas venir. Il faut qu'il parte pour que le Saint-Esprit vienne. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui habite le cœur de chaque chrétien aujourd'hui, il est là. C'est notre défenseur, notre conseiller. Nous avons beaucoup de belles promesses dans la parole de Dieu. Dans les psaumes 32, je vais t'enseigner et t'indiquer le chemin à suivre, dit le Seigneur. Je vais te donner un conseil. Je garde les yeux fixés sur toi. Quelle belle promesse. Le problème n'est pas du côté du Dieu, mais d'une autre. Parce que franchement, je crois que nos vies sont parfois tellement remplies qu'il y a peu de place pour que Dieu puisse nous parler. On fonce tête baissée. sans prendre le temps de recevoir ses conseils. Durant la semaine qui vient, passons du temps avec le Maître, laissons-le parler à nos cœurs. On va avancer dans le texte. Je crois que j'ai sauté quelque chose ici. Oui, le texte, on va le lire ensemble. Le jour suivant, le serviteur d'Élisée se lève tôt le matin, il sort de la ville. Il voit les soldats, les chevaux et les chars qui entourent la ville. Il crie, « Quel malheur, maître! Qu'est-ce que nous allons faire ?» Élisée répond, « N'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Ensuite, Élisée prie en disant, « Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie clair. » Le Seigneur ouvre ses yeux et le serviteur peut voir tout autour d'Élisée, la montagne est couverte de chevaux et de chars brillants comme du feu. Le matin, quand je sors du lit, parfois je suis comme ce serviteur. J'ai les yeux baissés. Je suis perdu dans mes pensées. Je lève les yeux tout juste pour regarder les problèmes que je dois affronter dans la journée. Oh, quel malheur! Imaginons un petit peu la scène. Le serviteur sort de la maison. Il regarde. Ce n'est pas possible, la ville est encerclée. Il regarde. Bah, les soldats syriens sont partout. Pas moyen d'échapper. C'en est fini pour nous. Il court en toute vitesse à Élisée pour lui annoncer la nouvelle. Mais Élisée n'a pas l'air de s'inquiéter. Qu'est-ce qu'Élisée lui dit? Il lui dit, n'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Le serviteur, il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Comment est-ce qu'Élisée peut dire une telle chose? Donc Élisée, il adresse une courte prière au ciel. Éternel, ouvre-lui les yeux. Et tout à coup, le serviteur d'Élisée voit ce qu'il n'était pas capable de voir auparavant. Qu'est-ce qu'il a vu? La montagne, pleine de chevaux et de chars, de feu. J'invite Jean-Marc à nous parler de ce récit, de ce calendrier.
Deux jeunes chrétiennes européennes, actives dans un dispensaire en Thaïlande, ont vécu de façon inopinée une expérience extraordinaire. Sur le chemin de retour vers leur station, elles ont été surprises par la subite nuit tropicale. Sans éclairage à leur vélo, elles n'ont eu d'autre solution que de passer la nuit à la Belle Étoile dans un coin abrité au flanc d'une colline boisée. Elles se sont confiées aux soins de leur Père Céleste et, vaincues par la fatigue, elles ont dormi jusqu'au lendemain matin. Elles sont finalement arrivées saines et sauves chez elles. Quelques jours plus tard, un homme se présente à leur dispensaire. « Vous ne me reconnaissez pas ? Moi, je vous reconnais. Vous avez couché tel soir dans la forêt, à tel endroit. » Eh bien, nous étions à plusieurs, cachés dans les buissons, avec la ferme intention de vous dévaliser durant votre sommeil. Mais nous avons aperçu 16 soldats armés montant la garde autour de vous, si bien que nous avons pris la fuite. » Pas de doute pour les deux jeunes femmes. Dieu avait envoyé ses anges pour les préserver des assaillants. Elles ont appris par la suite que ce même soir en Angleterre, leurs amis réunis pour la prière avaient eu spécialement à cœur de demander à Dieu de les protéger durant leur déplacement.
Je pense à Jésus lors de son arrestation. À cette foule armée d'épées, de bâtons qui viennent. Et l'un des disciples, Simon-Pierre, qui tire son épée et frappe le serviteur du grand prêtre. et lui coupe l'oreille. Mais Jésus lui dit de remettre son épée à sa place. Il lui dit, « Penses-tu que je ne puisse faire appel à mon Père qui mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges ?» Moi, je pense que ce jour-là, tout le ciel a été mobilisé. Tout le monde là-haut était prêt à agir. Il ne fallait qu'une seule parole. Cette parole de Jésus n'était pas une parole en l'air, c'était la vérité. Nous aussi, nous avons parfois ce sentiment d'être seuls, d'être écrasés par les événements. Sans secours, c'est comme si Dieu nous a abandonnés. Levons les yeux vers le ciel et remercions Dieu qui a promis qu'il ne nous abandonnera jamais. Wow. Je pense à ces versets en 2 Corinthiens 4. C'est pourquoi nous ne perdons jamais courage. La détresse que nous éprouvons en ce moment est légère en comparaison de la gloire abondante et éternelle, tellement plus importante qui nous prépare. Car nous portons notre attention, non pas ce qui est visible, mais ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible durera toujours. Il faut avancer, c'est la dernière partie de ce récit qui me parle beaucoup. On va le lire. Je commence verset 18. Les Syriens descendent vers Élisée. Le prophète prie de nouveau, « Seigneur, ferme les yeux de tous ces soldats. » Et le Seigneur leur ferme les yeux, comme Élisée l'a demandé. Alors Élisée dit aux soldats, « Vous n'avez pas pris le bon chemin. » Et ce n'est pas la bonne ville. Suivez-moi et je vous conduirai auprès de l'homme que vous cherchez. En fait, Élisée les conduit à Samarie. Quand ils entrent dans la ville, Élisée prie encore, « Seigneur, ouvre les yeux pour qu'ils voient clair. » Le Seigneur leur ouvre les yeux et voit qu'ils sont en pleine ville de Samarie. Wow. Dès que le roi d'Israël voit tous ses soldats, il demande à Élisée, « Mon maître, est-ce qu'il faut les tuer ?» Élisée répond, « Non, ne les tue pas. D'habitude, tu ne mets pas à mort ceux que tu fais prisonniers au combat. Alors, donne plutôt à manger et à boire à ces soldats. » Puis laisse-les retourner chez leur roi. Le roi d'Israël leur fait donc servir un grand repas. Après qu'ils ont mangé et bu, il les laisse retourner chez leur roi. À partir de ce moment-là, les bandes de voleurs syriens ne viennent plus dans le pays d'Israël. Élisée est un homme de prière. Il prie au moins 3 fois. Dans ce passage, toujours en relation avec la manière dont les hommes voient les choses. Comment est-ce qu'il prie? Est-ce qu'il prie pour que le roi d'Israël envoie ses troupes pour pouvoir le faire sortir d'autant? Non. Élisée, il a une meilleure idée. Il prie, frappe-les d'aveuglement. Ferme-les les yeux. Et nous lisons, c'est ce que l'Éternel a fait. Alors Élisée leur dit, n'est-ce pas, « Ah, monsieur, vous vous êtes trompés. C'est pas la bonne ville que vous êtes. Attendez, c'est pas grave. Je vais vous aider. Suivez-moi. » Et Élisée les conduit vers la ville de Samarie, à l'intérieur de la ville. Élisée prie encore, ouvre les yeux de ces soldats. Et les soldats syriens se rendent compte qu'ils se trouvent en plein milieu de la capitale d'Israël. Je me pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire par rapport à ce qui m'en fait mal. C'est une question bien difficile. Il y a plusieurs pistes possibles devant moi. Mais quand je réfléchis à cette question, je dois me rappeler que moi aussi, j'ai fait du tort aux autres. Je les ai blessés. Oui, il faut le dire que j'ai parfois, moi aussi, j'ai trompé les autres. Le roi d'Israël, il s'écrie, « Élisée, mon père, que dois-je faire? Je vais les tuer. » Ça, c'est souvent notre réaction, n'est-ce pas? La vengeance. Même si nous ne pensions jamais à tuer, nous nous disons peut-être, « Je vais leur donner une bonne leçon. Je vais leur rendre la monnaie de leur pièce. Ils vont comprendre que ça ne marche pas comme ça chez moi, hein, avec moi. » Quand on regarde nos écrans de télévision, on voit que dans beaucoup de cas, la violence, ce n'est pas une solution. Élisée a une toute autre solution. Il dit au roi, mais non. Faisons plutôt la fête. On va préparer un bon repas, servir de bon vin. Et puis, on va les renvoyer chez eux. Mais Élisée, quelle folie! Comment tu peux proposer ça? Mais pourtant, le roi, il a confiance dans cet homme de Dieu. Il va le faire. Il va préparer ce bon repas. Et il va laisser partir ses soldats syriens. J'aurais bien aimé être là quand ces soldats sont arrivés chez le roi de Syrie pour lui raconter tout ce qui s'était passé. Hein? Et je pense à quelque chose qui s'est passé au Burkina, là où nous avons habité, dans le village, je vais terminer bientôt. Il y avait un féticheux qui était très connu. C'était un guérisseur traditionnel qui avait ce pouvoir par le monde occulte. Et il s'appelait Siwonte, je me rappelle de son nom. Et il ne fallait surtout pas entrer en conflit avec cet homme. Hein. Surtout pas. Hein. Et devant sa maison, à côté de la route, il avait mis un panneau où il listait toutes les maladies qu'il pouvait guérir. Impressionnant. Et cet homme, il rendait la vie difficile au pasteur Jean. Si vous allez lire l'autobiographie de Maddy, vous allez trouver le nom de pasteur Jean. Et Siwonte, il faisait toutes sortes d'ennuis pour le mettre en colère. Mais pasteur Jean, il a toujours gardé son calme. Il ne se l'est pas laissé faire. Il était toujours bon envers cet homme. Et chose étonnante, un jour, cet homme était sur le point de mourir. Siwonte, à qui est-ce qu'il a fait appel? À ses amis, ses autres féticheux? Non. Il a fait appel à Pasteur Jean. Et Pasteur Jean a appelé les autres responsables d'église et sont allés. Nous sommes allés chez cet homme. Et il voulait régler des choses dans sa vie. Il avait compris qu'il n'était pas sur le bon chemin. Et je ne me rappelle plus tellement des détails, mais je sais qu'il avait une bague sur son doigt. Et c'était cette bague qui lui donnait accès à ce monde des esprits. Et Pasteur Jean lui a dit, mais il faut enlever cette bague. Il faut se débarrasser de cette bague. Et ils avaient tant de mal à sortir cette bague. Quelques jours d'après, cet homme, Siwonte, il est décédé. Et bien sûr, sa famille a fait des funérailles païennes. Mais je me dis que ce n'était pas la chose la plus importante. Dieu sait ce qui s'est passé dans son cœur, s'il a réellement fait une démarche de foi. Je pense à ce passage en Romains. Je vais terminer, après je vais laisser pour un chant. Romains 12, ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez de faire le bien devant tous les hommes. S'il est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car l'Écriture déclare, « C'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui paierai de retour, dit le Seigneur. » Et aussi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sera comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Merci beaucoup. Je vais laisser la place à Marie-Ève pour ce chant.